Vous êtes toujours à l'écoute de Canal Sud dans le magazine et donc nous sommes en ligne avec Jean de la ZAD de Roibon, mais dans un premier temps on va écouter la déclaration un petit peu qui avait été faite en novembre dernier. Donc c'était depuis la ZAD de Roibon, c'était l'annonce de l'occupation des lieux et du début de la lutte.
Dimanche 30 novembre, nous nous sommes retrouvés à 1000 personnes à Roibon pour nous opposer au projet de Center Parcs et nous réapproprier la forêt des Chambarans, volée par Pierre et Vacances à 30 centimes du mètre carré.
En traversant le site du chantier, nous avons montré que cette forêt est à toutes et à tous. Et nous avons constaté qu'elle est aujourd'hui détruite à toute vitesse par un projet qui, en plus d'être inutile, se réalise sur l'argent public, dans un déni démocratique ahurissant, voire le résultat de l'enquête publique.
Notre promenade s'est achevée à la maison forestière de la Marquise, propriété abandonnée de l'ONF, que nous occupons massivement à partir d'aujourd'hui, et au moins jusqu'à l'abandon définitif du projet de Center Park.
Cette maison nous servira de base arrière pour organiser notre lutte pour une forêt sans Center Parks. Cette lutte est la sœur d'autres mobilisations et l'occasion de montrer que d'autres mondes sont possibles et existent déjà.
Nous appelons toutes celles et ceux qui souhaitent à nous rejoindre, pour une nuit ou pour la vie,
une lutte sur place ou à emporter.
Chacun selon ses moyens.
Ce n'est que le début.
ZAD partout et partout. Pierre, les vacances sont finies.
Voilà, donc ça c'était le message qui avait été adressé, en tout cas par voie d'une vidéo sur YouTube notamment, concernant l'occupation de la ZAD de Roibon. On est en ligne avec Jean qui nous écoute depuis là-bas, depuis donc Roibon, à quelques kilomètres de Grenoble. Jean, tu nous entends ?
Oui, je vous entends.
C'est parfait et on t'entend très bien également. Donc, la ZAD de Roibon, c'est pour lutter contre un projet d'un Center Park. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment est née la lutte et puis où c'est qu'on en est actuellement ? Comment c'est né un petit peu et puis qu'est-ce que c'est le projet ?
C'est un projet en fait qui est né en 2007,
ouais.
Et qui était complètement invisible. On n'en a pas entendu parler, il se passe qu'il n'y a pas eu de débat public. Normalement, pour un projet de ce coût, on peut rappeler que c'est quand même la somme de 370 millions d'euros.
Mm-hmm.
Pour des projets comme ça, non, il faut toujours faire des débats publics, et là, c'est resté en fait dans l'ombre. C'est plutôt en 2012, quand il y a eu les grosses manifestations, les gros rassemblements à Notre-Dame-des-Landes, qu'on a vraiment commencé à entendre parler de Roibon, parce que là, on parlait surtout des grands projets inutiles. On parlait donc de Notre-Dame-des-Landes, du Lyon-Turin.
Ouais.
Et sur Grenoble, là, il y a eu des premiers rassemblements assez significatifs, notamment des pièces de théâtre, des fois assez rigolotes, sur le projet qui soit le plus inutile possible, le plus coûteux possible, les gens se décernaient des coupes, et là, ça commençait à parler des Chambarans. C'était complètement inconnu de la population à Grenoble, c'était pas du tout su. Et là,
d'accord.
Voilà, petit à petit, en fait, l'information a fait son chemin. Et ça a pris encore un peu de la vitesse à partir du moment où la situation à Sivens est devenue vraiment délicate. Donc ça, c'était en 2014.
Ouais.
Et là, tout s'est enchaîné. Tout est allé très très vite.
D'accord.
Les chantiers ont commencé. Il se trouvait que la loi sur l'eau n'était de manière objective, c'était pas respectée du tout. Il y avait des vices de procédure un peu partout. Et le chantier, malgré tout, a commencé. C'est un peu un passage en force pour se baser sur le fait accompli. Donc, en gros, on déforeste tout et après, d'accord, on n'a pas respecté quelques lois, mais regardez, mesdames et messieurs, c'est un petit peu tard quand même, la forêt, on l'a coupée, donc s'il vous plaît, laissez-nous finir.
Grosso modo, au moment, en novembre 2014, quand la lutte a vraiment pris plus une place importante sur le terrain, c'était quoi l'état du terrain, l'ampleur des travaux, etc. S'en était où à ce moment-là?
Eh bien, en fait, le chantier avait déjà commencé.
Ouais.
Donc, il y avait, au début, ils ont commencé plutôt tranquillement, ils s'inquiétaient de rien. Donc, du coup, il y avait, pendant 5-6 jours par semaine, il y avait donc des engins de chantier qui ont commencé, en fait, à déforester la zone nord, notamment pour les parkings.
D'accord. Ça représente quelle surface, à peu près?
Pardon?
Ça représente à peu près quelle ampleur, quelle surface, du coup, ce chantier?
Eh bien, finalement, alors, la totalité du chantier, la totalité de la zone, ça fait à peu près 200 hectares.
D'accord,
ça
donc c'est important.
Pas beaucoup pour certains, beaucoup pour d'autres. En fait, ça c'est très compliqué en fait de juger la superficie. À titre indicatif, annuellement en France, on est à peu près 70 000 hectares qui sont détruits chaque année.
Mm-hmm.
Donc 200 plus 200 plus 200 à chaque fois. Mais la question se pose. Du coup, même si ça pourrait être que 200 pour certaines personnes, bah c'est déjà 200 hectares de trop.
Bon, faut à titre comparatif, c'est à peu près 10 fois plus que Sivens, c'est 10 fois moins que Notre-Dame-des-Landes.
Exactement, parce que Notre-Dame-des-Landes, c'est plus de 1500 hectares, hein, c'est quand même beaucoup plus grand.
C'est ça.
Mais comme je le disais, 200 hectares, c'est 200 hectares de trop, vu l'état actuel
de nos terres
en France, hein, qui se déglingue très rapidement. Et là-dessus, donc, ils ont fait un passage en force, et quand ils ont vu qu'il y a une opposition qui était naissante, ils ont fait quasiment les 3-8. C'est-à-dire que nuit et jour, ils travaillaient avec les tronçonneuses et les machines pour aller le plus vite possible. Parce qu'ils ont réalisé que au niveau de la loi, il y avait des listes de procédures et qu'une interdiction pouvait avoir lieu.
Donc autant avancer le plus vite possible. Mois
décembre. Donc autant faire du fait accompli et ils ont coupé à peu près 40 hectares avant vraiment que les opposants viennent sur le site et bloquent du coup le projet de manière on va dire définitive. Après ils sont partis dès vraiment qu'il y a eu des confrontations. Il n'y a pas eu vraiment de violence sur place, qui est plutôt des actions, des gens qui se couchaient dans les machines, hein, des gens qui se sont vraiment interposés, mais voilà, pas de...
De manière non violente quand même.
De violence dure, voilà, c'était quand même la base, c'était quand même la non-violence.
D'accord.
Et nous, on est là, vous vous foutez de nous, parce que vous ne faites pas de débat public, vous faites des projets qui, de toute façon, pour nous, sont des grands projets inutiles. On bloque votre chantier, mais nous, c'est pas la guerre, nous, on n'est pas là pour ça, on est là pour débattre. Il y a eu des tentatives en fait aussi de discussion avec les gens droit bon, et là ça a été particulièrement difficile parce qu'on leur a pris entre guillemets leur point de salut, leur emploi entre guillemets qui était promis par Pierre et Vacances, donc ça a été très compliqué avec la population locale.
J'allais y venir justement, comment la population un peu locale se positionne. Alors déjà il faut rappeler, hein, Roibon c'est une cinquantaine de kilomètres de Grenoble, c'est ça?
Voilà, c'est à 60 km de Grenoble.
Et donc, c'est un petit village, c'est une grosse ville, parce que nous, on ne connaît pas ici. Donc, comment ça se présente un peu la population, en tout cas?
Alors, c'est une agglomération relativement étendue, hein, quand même, sur l'espace. Il y a 1300 habitants.
D'accord,
Il y a toute une petite partie, donc, un centre-ville qui n'est pas très, très grand. Et il y a toute une partie, donc, c'est rural autour. Hein, il y a pas mal de fermes.
D'accord.
Le milieu agricole est encore présent. Il y a une déprise assez conséquente. Il y a pas mal de zones, qui sont plus actives. Hein. Faut savoir que de toute façon la population agricole en France, elle baisse d'année en année. Les terres là-bas n'ont jamais été très fertiles non plus, mais il y a quand même pas mal de fermes un petit peu partout autour.
D'accord.
Et des zones de forêt assez grandes. Et c'est dans une de ces forêts donc que le Center Park devait être implanté.
Et alors maintenant, on en est où avec le rapport avec la population? Est-ce qu'il y a des dialogues qui ont pu être établis? Est-ce que les gens comprennent le mouvement de contestation de ce projet de Center Park? Est-ce que au contraire, comme tu le disais, ils mettent plus en avant la privation d'emploi ou etc. ou d'activités économiques?
Alors, ce qui se passe, dès le début, en fait, la population a été divisée. C'était une drôle d'ambiance, en fait, dans Roibon, parce qu'il y a eu toujours, dès le début, les pro-Center Park et les anti-Center Park. Il y a beaucoup de gens, malgré tout, qui ont soutenu la ZAD. Ils n'étaient pas forcément visibles, parce qu'il faut savoir, c'est que dans un village, quand on prend un engagement, quand on soutient ou qu'on est contre un projet, ça peut mal tourner avec le voisinage, ça peut déraper, ça peut prendre des proportions...
importantes, ouais.
Ça peut devenir violent. On a eu l'exemple par exemple de personnes qui avaient refusé de mettre des banderoles pro Center Park et des gens du village qui lui disent toi tu vas avoir des problèmes, vraiment des petites menaces comme ça qui flottaient un peu droite gauche. Donc finalement les anti Center Park ne se montraient pas trop de peur en fait d'avoir de subir des violences, mais ils étaient présents dès le début. Il y a eu énormément de soutien quand la ferme de la Marquise a été ouverte, il y a eu énormément de soutien de la part de personnes autour qui venaient apporter du ravitaillement, des cartes, des piles pour les lampes frontales, de la nourriture. Il y a eu beaucoup de soutien et aussi beaucoup d'opposition. Ça a vraiment divisé le village à ce niveau-là.
D'accord.
Faut pas croire ce que disent certains grands médias qui disent tous les Roibonnais en fait sont opposés au Center Park. Le Center Park c'est que certaines personnes en fait qui viennent de loin, qui n'ont rien à voir avec le projet, qui s'y opposent. Non, il y a vraiment des Roibonnais qui sont venus nous voir très très tôt pour nous dire mais on est avec vous, on vous soutient, tenez du ravitaillement et pensez à nous si vous avez besoin d'un coup de main. Quoi.
C'est une propagande médiatique qu'on a l'habitude de rencontrer sur l'ensemble des luttes contre les projets inutiles. Hein. On a eu la même chose à Sivens, à Notre-Dame-des-Landes et partout sur les autres ZAD. Hein. C'est malheureusement, on essaye de liguer aussi, certaines personnes en tout cas essayent de liguer la population contre la lutte. Quoi.
C'est l'instrumentalisation en fait, d'une certaine opposition par rapport à la lutte qui est décrite comme étant énorme, alors qu'en fait, elle n'est pas si grosse que ça.
D'accord.
Elle est présente, elle est vraiment présente, parce que ce qui se passe, c'est que là, il y a le problème de l'emploi. En effet, la commune de Roibon, c'est pas une commune au niveau agricole où les champs barrants, on appelle ça les champs bons à rien, c'est-à-dire que c'est pas en effet des champs qui sont très très fertiles, donc il n'y a pas beaucoup beaucoup de choses. C'est une ville, malgré tout, qui a eu des soucis financiers, mais qui s'est encore plus endettée, en fait, à partir du moment où ils ont décidé, en catimini, de faire des routes pour le futur Center Park. En fait, les dettes ont littéralement explosé à ce moment-là. Donc finalement, là, c'est pareil. C'est complètement biaisé et c'est pas du tout objectif quand, quand certaines personnes disent « Oui, mais regardez, on a besoin de travail, on est endetté. Okay. » Ils sont endettés, mais c'est pas pour rien non plus, quoi. C'est...
D'accord.
Faut pas l'oublier non plus.
Alors revenons peut-être un petit peu sur sur la lutte, la forme qu'elle a prise à partir de donc de ce début d'année 2015 en fait. En réalité, c'est novembre-décembre qu'il y a eu vraiment les premières actions de désobéissance et d'opposition. Comment ça évolue ? Enfin, ou peut-être je me trompe, hein.
La première grosse action, en fait, c'était l'action d'occupation de la Marquise.
Ouais.
Il y a eu vraiment beaucoup de monde. C'était au mois de novembre. C'était au mois d'octobre, vraiment, où là, tout le monde a commencé à se rassembler, à faire des réunions pour se dire là, c'est grave, parce que le chantier a déjà eu lieu, mais c'est vraiment en novembre, donc ça a commencé.
D'accord.
Et depuis,
ça a évolué, j'imagine.
Alors, il y avait beaucoup de gens au début.
Ouais.
Et après, alors, faut le rappeler que c'est quand même sur le plateau des Chambarans, à 600 mètres d'altitude, que l'hiver là-bas est plutôt rigoureux.
Ouais.
Et je cache pas que l'hiver, ça a été difficile. Il a fait froid, hein, il a fait en dessous de moins 10. Donc, pouvoir tenir des cabanes, pouvoir tenir un terrain, par temps froid, sans malgré tout assez de soutien, parce que du soutien, il y en a eu, mais pour pouvoir dormir dehors par cette température, bah, c'est pas forcément évident.
Évidemment.
Donc, sur janvier-février, il y a eu une période qui a été quand même difficile. Difficile parce que toujours beaucoup de friction en fait avec certains rabonnais. Il y a toujours eu des situations assez délicates, voire de la violence. Là, il y a eu quand même eu des accros, hein. Il y a eu quand même des personnes qui ont été agressées.
Ouais.
Et en même temps, quand même une belle énergie. Il y a eu quand même beaucoup d'énergie qui est venue de la part de comités de soutien, notamment sur Grenoble et sur Lyon.
D'accord.
Et ça a quand même tenu. Il y a quand même de toute façon un petit groupe soudé qui est resté là-haut. Avec pas mal de gens qui sont venus des alentours, hein. On peut pas parler vraiment de noyau, c'est pas toujours la même personne. Il y a pas mal de monde qui est venu de droite et de gauche, à chaque fois pour filer du soutien. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, il y a eu bien sûr en fait l'engagement pour défendre la zone, mais aussi pour créer, pour réfléchir vraiment à des alternatives. Il y a eu une belle énergie en fait qui est née de cette lutte.
D'accord.
Pour proposer plein d'autres choses, pour proposer des débats malgré tout avec les Rabonnais et d'une manière générale avec la population française. De toute façon, c'était très très large. Et c'était bien plus finalement les derniers mois là depuis avril-mai, maintenant qu'il fait plus chaud, il y a beaucoup de gens qui sont montés non pas pour la lutte mais aussi pour causer pour causer vraiment pour parler de tout ce qui peut être fait en fait à la place du Center Park et de réfléchir en fait sur des alternatives beaucoup plus générales. Notre rapport par rapport au travail, par rapport au problème de l'écologie, notre rapport par rapport à l'argent, et il y a eu beaucoup de discussions par rapport à ça.
D'accord.
Et finalement, moi, c'est ce que j'ai tendance à répéter, c'est bien plus qu'une lutte. C'est bien plus qu'une lutte, finalement. Ça fédère beaucoup plus de gens que simplement des opposants pour le Center Park.
Et du coup, pour en revenir du coup vraiment au projet en tant que tel, les travaux, ils ont été stoppés complètement pendant cette période-là, ils ont continué un petit peu. Comment ça s'est passé ?
Alors là, oui, les travaux sont en point mort pour deux raisons. Alors déjà, donc le tribunal administratif de Grenoble avait dit clairement la loi sur l'eau n'est pas respectée.
Mmh.
Donc, de toute façon, les travaux, ce n'est pas légal ce qui avait été commencé.
D'accord.
Les travaux avaient été abandonnés avant, suite à la création de la ZAD.
D'accord.
Et ce qui se passe, c'est qu'on a, de toute façon, quand il y a un projet de déforestation comme celui-là, il faut demander un permis, et ce permis est valable qu'en hiver.
D'accord.
C'est-à-dire que c'est valable à partir de novembre jusqu'à mars.
Mm-hmm.
Et ça, de toute façon, les travaux n'auraient pas pu reprendre.
D'accord.
Parce que la déforestation ne peut pas se faire, en fait, en estival.
Une période estivale, d'accord.
Voilà. Ça, c'est, c'est valable, en fait, pour la coupe, mais c'est valable aussi pour le dessouchage. Là, ils ont fait que la coupe, ils n'ont pas dessouché.
D'accord.
Donc, même si la ZAD est expulsée, les engins ne pourraient pas revenir tout de suite, dans le sens où là, toutes les souches sont en place, et ça, ils ne peuvent pas, en fait, le faire avant l'hiver prochain.
D'accord.
Donc, les travaux, pour le moment, sont au point mort. Tant pour la partie nord, pour le parking, qu'ils avaient vraiment commencé à faire bille en tête, que pour toutes les parties plus au sud, ils avaient commencé à installer des réseaux d'eau, d'électricité, ça, c'est pareil. Il n'y a rien qui a été touché, y compris pour la clôture, c'est au point mort à ce niveau-là.
Bon, et du coup, moi, question un peu provoque. Un Center Park, c'est quand même un projet un petit peu nature pour les gens qui vivent en ville et qui aimeraient peut-être aller à la campagne. Pourquoi les ZAD, elles se forment pas ? Enfin, on a vu des ZAD pour des aéroports ou pour des projets comme ça, mais un Center Park, est-ce que c'est vraiment vraiment inutile ?
Alors, il faut se poser la question. Bon, est-ce que c'est plus naturel que ça ?
Ouais.
De faire une bulle tropicale à 600 mètres d'altitude. Qui, rien que pour le chauffage de ces installations, va consommer, si on prend l'équivalent en bois, 40 hectares par an. Parce que tout ça, il va falloir le chauffer. Donc au niveau économique, ça coûte une somme phénoménale. Et au niveau naturel, c'est quand même une zone humide, hein, qui va être détruite. Des zones humides en France, il n'y en a pas beaucoup. Donc du coup, naturelle, bah, c'est toujours moins naturel que la zone telle qu'elle est actuellement.
Évidemment.
Il y a plein de possibilités pour faire des petites unités touristiques. Il y avait un centre équestre à Roibon. La personne qui dirigeait ce centre bah, va partir. Du coup, il y a possibilité de faire des gîtes, de relocaliser en fait l'artisanat qui est parti maintenant un petit peu de partout. Donc finalement, non, je dirais, c'est une nature en plastique, on va dire. C'est une nature qui n'a pas vraiment lieu d'être.
C'est ça.
C'est faire une bulle tropicale qui consomme autant d'énergie. Au jour où on parle d'économie justement d'énergie, à l'année où on parle justement d'une conférence sur le climat où on dit on va devoir réduire notre consommation énergétique, hein, faut pas oublier qu'on consomme à peu près 150% de ce que la Terre peut nous offrir, faut pas l'oublier, hein, que le non, c'est pas naturel pour dessous. C'est en nature, c'est dans la nature, donc autour de ces 1000 cottages, hein, faut pas oublier qu'il y aura 5000 personnes avec 1000 cottages, il y aura la forêt autour.
Ouais.
Mais ça va être quand même de toute façon toute une partie de la forêt qui va être bétonnée. Il y a une inscription sur le sud de la zone qui dit, grosso modo, on aura toujours raison de défendre une forêt. La forêt, moins on l'abîme, mieux on se porte. Faut pas l'oublier que, d'une manière générale, annuellement, dans le monde, c'est 15 millions d'hectares qui sont détruits chaque année. Mmh. C'est un stade de foot, grosso modo, toutes les deux secondes. C'est énorme. On peut pas continuer avec un rythme comme ça. La meilleure des déforestations, c'est celle qui n'existe pas. Vaut mieux rien toucher. On peut s'installer dans la nature sous forme de gîte, sous forme de centre équestre. On peut faire plein de choses, mais pas comme ça, en fait.
Hmm. Alors, peut-être on peut en venir à parler de la répression, qu'elle soit judiciaire ou policière. Est-ce qu'il y a des forces de police sur le terrain? Est-ce qu'elles passent de temps en temps ou est-ce qu'elles sont présentes de manière continue? Est-ce qu'il y a des intimidations? Comment ça se passe au niveau du rapport policier?
Alors, pour le moment, c'est resté relativement calme. Dans le sens où il y avait eu vraiment un mot d'ordre qui avait été donné, tant qu'il n'y a pas d'une décision de justice, il n'y a pas d'expulsion.
Okay.
Du coup, la police, elle est restée plutôt discrète, elle est présente, elle fait toujours des tours, il faut pas non plus oublier qu'il y a le camp militaire des Chambarans qui est pas très très loin.
Mm-hmm.
Donc du coup, il y a une base arrière où ils sont présents, il y a de toute façon un terrain de manœuvre, donc il y a toujours des hélicos qui volent de droite et de gauche, que ce soit au camp militaire et aussi par des repérages qui sont faits par la police de manière assez régulière.
Mmh.
Ils sont présents, on les voit tourner autour de la zone. Il y a de temps en temps, surtout quand il y a des réunions qui sont proposées, quand il y a des actions d'information, il y a des barrages qui sont des fois plus conséquents.
Mmh.
Mais il n'y a pas eu vraiment de friction dure, telle que c'était le cas, par exemple, à Stivins.
D'accord.
Pour le moment, il reste plutôt discret.
Mmh.
Sachant que par contre, dès qu'il y a une décision de justice, hein, donc le dossier est revu le 2, il y aura une décision certainement les 15 jours qui suivent, hein, donc à partir du 15 juillet, là, ça va vraiment, la donne risque de changer, parce que de toute façon, le préfet l'a dit ouvertement, il y aura expulsion à partir du moment où la justice est favorable à la création du projet.
On imagine. Donc du coup, sur le volet judiciaire, donc tu nous expliquais que le projet de construction était illégal ou en tout cas illicite puisqu'il n'avait pas obtenu toutes les autorisations nécessaires à l'avancement. Là-dessus, ils ont réussi à obtenir leurs autorisations pour reprendre les travaux ou bien alors ils se concentrent d'abord à essayer d'expulser les zadistes pour pouvoir faire place nette et puis ensuite faire les travaux. Je sais pas, tu parlais de recours le 2 juillet quand on s'en est où là-dessus?
Alors tout est tombé à la fois. En fait, ce qui s'est passé, donc il y a une association PCSCP qui s'appelle Pour un Chambaran sans Centre Parc, qui est plutôt basée sur le volet environnemental.
D'accord.
Ils ont posé en fait une nouvelle fois des recours parce que en effet, il y a des vices de procédure un peu partout, comme je disais tout à l'heure.
Ouais.
Il y a des espèces protégées qui dans les premiers rapports n'ont pas été mentionnées.
Mm-hmm.
Les zones de compensation, c'est pareil, ça fait débat, parce que c'est les zones de compensation, a priori, il n'y a pas de suivi.
C'est quoi une zone de compensation?
Alors, une zone de compensation, ça veut dire, grosso modo, si je détruis un hectare de forêt, ou un hectare de zone humide,
ouais,
je dois en recréer deux, un peu plus loin, dans une zone qui s'y prête.
Ok.
Il faut savoir, c'est que d'une part, même si c'était respecté, il y a une chose, il y a le respect de la loi, le respect de cette réglementation qui dit, bah, il faut compenser les zones qu'on détruit, et il y a la possibilité de le faire. Étant moi-même dans l'environnement, je le sais pertinemment, et ça tout le monde le dira, c'est pas possible de recréer comme ça un espace naturel qui a été détruit. Ça, c'est de la poudre aux yeux, ça ne fonctionne pas. On peut pas recréer comme ça une zone humide de toutes pièces en claquant des doigts.
Mmh.
Ça coûterait une somme pharaonique, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de suivi. Donc là, d'entrée de jeu, bah, il y a eu une très très vive opposition sur leur soi-disant zone de compensation. Sur l'eau, bah, il y a toujours un gros litige. En fait, la loi sur l'eau, bah, pour le moment, le rapport est de toute façon négatif. Ce sera revu à ce niveau-là, ce sera revu, mais pour le moment, non, la loi était de notre côté. Mais Pierre et Vacances donc, a redéposé un dossier, et ce qui risque de se passer, c'est que de même manière qu'il y a eu un Sivins Light, il risque d'y avoir du coup un Center Park Light.
D'accord.
Pour dire, nous avons compris vos inquiétudes, nous avons compris vos revendications, donc au lieu de faire 1000 cottages, on n'en fera que 500 ou 800, on n'a pas encore vraiment d'infos. À ce niveau-là, ça spécule de partout, on ne sait pas vraiment en fait ce qui va se passer au niveau de ce procès, au niveau du rendu. C'est vraiment le gros questionnement, c'est sur toutes les lèvres, mais on n'arrive pas trop à savoir, y compris PSSCP, lui, ce qui risque de se passer vraiment, c'est un Center Park Light, mais c'est même pas sûr non plus.
Ouais.
Ça, vraiment, on attend. C'est vraiment un climat d'attente actuellement qui est à la hausse.
D'accord. Alors, concernant les expulsions, tribunal le 2 juillet ?
Alors, donc, le dossier va être revu le 2 juillet,
ouais.
Mais par contre, le rendu public sera donné dans la quinzaine de jours qui suit.
Très bien.
C'est pareil.
Est-ce qu'on peut...
Ça peut être 10 jours qui suivent, ça peut être 15 jours, donc là, il y a un gros flottement.
Ouais.
Mais ce qu'on est, on est à peu près persuadé, par contre, c'est que dès que le rendu tombe et qu'il est en faveur du Center Park, là, l'expulsion sera quasi immédiate.
Et l'audience, elle se tiendra dans quel tribunal on a des précisions? Est-ce qu'on peut venir soutenir ou est-ce que c'est pas nécessaire? Est-ce que c'est...
Alors ça, il y a des communiqués qui seront donnés, il me semble... Alors ça, j'ai peur de vous dire une bêtise.
D'accord.
Il y avait eu donc, le tribunal administratif de Grenoble qui avait traité la première fois donc, ce dossier en mois de... au mois de décembre. Là, j'ai entendu comme quoi ce serait sur Lyon. Donc ça, à voir.
D'accord.
Je préfère éviter de vous dire des bêtises à ce niveau-là. Donc il faudra redemander en fait à PCSCP. Donc c'est eux vraiment qui s'occupent de la partie juridique de la lutte.
D'accord.
Donc a priori, ce serait sur Lyon. Ça, c'est ça vérifie quoi.
Peut-être on peut donner des sources d'infos. J'imagine qu'il doit y avoir vous avez peut-être un site internet, un groupe, une liste de diffusion, je sais pas.
Exactement. Donc là, il y a le site de Zadroibon.
Zadroibon.
Il sera donc Zadroibon. N'importe qui tape Zadroibon. En fait, vous êtes directement dirigé donc sur le site qui a été fait donc par les comités de défense.
Donc c'est Roibon. C'est R. Je rappelle pour les auditeurs. Roibon. R O Y B O N.
Voilà. C'est ça.
Donc Zadroibon. Donc là, il y a un site internet sur lequel on peut avoir des infos.
Alors c'est le site sur lequel il y a les dernières news. Après, il y a également le site de PCSCP.
Alors, c'est PCFCP.
Vous pouvez le taper en toutes lettres.
PCFCP, c'est ça ?
PCSCP.
PCSCP, très bien.
Voilà, donc lui, pareil, en fait. Il explique de manière régulière, en fait. Hein, il remet en fait en lumière tout ce qui s'est passé en fait, au niveau juridique, au niveau environnemental. Donc, pour avoir plus de détails, en fait, sur cette lutte, le site est quand même assez
fourni, ouais.
Et les dernières infos, en fait, voilà, elles sont réactualisées dès qu'on a des nouvelles. Sur le site de Zadroibon, pareil, en fait, il y aura des infos qui seront données sur l'état des lieux, sur ce qui risque de se passer, et comment, en fait, vous pourrez en fait nous donner du soutien.
Ouais, c'est ça. Pour vous soutenir également, il y a besoin. Il y a besoin de peut-être de choses particulières pour vous soutenir, je sais pas, pour peut-être du matériel et de la nourriture pour les zadistes, peut-être de l'argent pour la lutte du côté juridique. J'imagine qu'il y a quelques besoins comme ça.
Alors en fait, il y a plusieurs manières de soutenir. Il faut pas oublier en fait que la ZAD, on peut pas vraiment en parler au singulier. Il y a le soutien donc qui est franc, qui est directement donc pour la ZAD de Roibon, mais le meilleur des soutiens, c'est aussi de l'information. C'est aussi d'informer. Donc pour n'importe qui tape par exemple le Center ZAD, j'en parlerai en fin d'émission, mais qui tape par exemple ce genre d'information sur lequel il y a des médias qui ont fait des dossiers très très complets sur ce genre de lutte, le mieux en fait, c'est de le faire tourner.
Bien
c'est déjà
sûr.
D'informer les gens que en France c'est bien plus qu'une ZAD en fait, c'est le territoire national d'une manière générale et c'est même mondial, c'est pour ça la devise c'est ZAD partout. C'est que de partout en fait l'environnement se déglingue à vue d'œil. Et du coup le meilleur des soutiens pour le moment c'est l'information.
Et de faire tourner les infos
C'est faire tourner les infos, de dire bien sûr mais venez filer la main. Il y a le soutien bien sûr moral, il y a que les gens viennent mais carrément, ils sont bienvenus. Et c'est pareil, il y a tout un questionnement, il y a bien sûr la lutte, mais il y a aussi un questionnement beaucoup plus large sur le rapport qu'on a au travail, le rapport qu'on a à l'argent, comme je disais au début, c'est bien plus qu'une lutte.
Le rapport à l'environnement, etc.
Si les personnes veulent venir, elles sont invitées en fait à bras ouverts.
Ah bah bien sûr.
Du coup, il n'y a pas de limite à ce niveau-là.
Comment on se rend sur la ZAD à Roibon?
Alors il y a des routes principales, hein, donc en fait c'est pas très très loin de Grenoble. Donc il y a la vallée au nord, donc il y a des routes principales avec un gros échangeur.
D'accord.
Donc, que je me rappelle le nom, c'est au niveau de Saint-Simon-de-Bressieux. Donc, de Lyon, en fait, c'est à l'est de Lyon, en direction de Grenoble.
Ça a une heure, deux heures de route, un truc comme ça ?
Voilà, grosso modo. par Romans, c'est pareil, par le sud, on peut passer par Romans, et bien sûr par Grenoble, donc par toutes ces grandes villes. Après, n'importe qui, en fait, cette commune est marquée sur tous les atlas routiers, c'est,
voilà,
c'est okay. Quand même bien marqué, toutes les petites routes pour y monter.
Bien indiqué.
Pas de soucis pour s'y rendre, quoi.
Eh ben, on invite les auditeurs et les auditrices à se rendre sur les différents sites internet, à s'informer. Il y a également des vidéos qui ont été tournées, qui sont disponibles gratuitement en visionnage gratuit sur internet, sur YouTube, etc. Notamment Centerzad et puis peut-être 2-3 autres petites vidéos comme ça.
Alors oui, alors moi c'est celle dont je parle le plus souvent. Centerzad, en fait, c'est une vidéo qui a été faite pendant l'hiver, justement pendant un atelier qui s'appelait Open Barricade, hein, qui était pour le but de cet atelier, c'était vraiment de fédérer tout le monde autour de questionnements relatifs à l'environnement, à la politique, ce que je disais tout à l'heure, en fait, et aussi la pendant l'hiver.
Okay.
Il y a une vidéo qui a été tournée, qui dure 45 minutes, sur laquelle il y a pas mal d'interviews, qui est assez complète.
D'accord.
Il manque quand même quelques petits détails, parce que malgré tout, même en 45 minutes...
On peut jamais être exhaustif, hein, c'est pas possible.
On peut jamais, c'est compliqué, en fait, ça prendrait des heures, en fait, pour vraiment parler de tout ça, parce que la lutte, il y a plein d'aspects, c'est... Mais elle est quand même bien fournie.
Donc on invite tout le monde à aller voir ça. Le temps tourne un petit peu, donc peut-être 2-3 petits mots pour terminer, et puis on va être obligé de se quitter.
Eh bien, 2-3 petits mots, justement, voilà. C'est une invitation à venir, c'est une invitation à venir discuter, à donner de l'énergie, à parler vraiment de tout plein de questionnements. C'est voilà, une invitation à bras ouverts, même si la situation peut devenir difficile. De toute façon, il y a des comités de soutien autour, donc après, pas de souci pour se retrouver ailleurs, hein, parce que la ZAD, il y aura une après-ZAD. Faut pas oublier que le mouvement est bien plus large que simplement pour Wabon.
Ouais, ouais.
Et c'est une invitation à réfléchir à tout ça. Il y a plein de sites, je peux parler de reporters aussi, je peux parler de, par rapport à l'agriculture, je peux parler de Claude Bourguignon. Il y a plein de gens qui se posent ces questions, qui mettent des vidéos. Donc j'invite vraiment tout le monde à se questionner, à venir et...
Et voilà.
Vraiment...
Ok, ça marche.
Voilà.
Merci beaucoup. Puis on tiendra informé aussi. On essaiera de suivre un petit peu ce qui se passe à Roibon et puis ailleurs. Et n'hésitez pas, en tout cas, à nous faire parvenir les communiqués. Et puis comme ça, on pourra faire tourner les informations par la radio à Toulouse et partout en France. www.canalsud.net aussi pour ceux qui sont loin. Vous pouvez nous écouter depuis Roibon d'ailleurs, si le cœur vous en dit. Merci beaucoup en tout cas, Jean.
Merci beaucoup.
Et du coup, nous, on va continuer ce magazine avec un petit peu de musique. Et puis ensuite, on parlera théâtre. Donc du coup, on va pour l'instant écouter Massilia.